Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre-Yves Bournazel, co-président du groupe indépendant et progressiste au Conseil de Paris, ancien député, secrétaire général délégué d'Horizon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, j'aimerais souhaiter un très bon Ramadan aux auditeurs de Radio Orient, Ramadan qui commence ce jeudi 23 mars. Pierre-Yves Bournazel, j'aimerais vous faire réagir à l'interview d'Emmanuel Macron ce mercredi en début d'après-midi. Il a dit que la réforme des retraites va poursuivre son chemin démocratique. Il n'a pas fait beaucoup d'annonces. Et à propos de la réforme des retraites, le président de la République a dit « ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire. Il y avait un risque pour les finances de la France. Il n'avait vraiment pas d'autre choix que de faire travailler les Français 2 ans de plus. »
Avant de vous répondre, Loïc Barrière, permettez-moi aussi de souhaiter un bon ramadan à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Je sais que c'est un moment important pour eux. Sur la réforme des retraites, j'ai écouté, comme vous, le président de la République. Je crois qu'il était important que le président puisse s'exprimer, puisque nous sommes dans une situation extrêmement difficile et délicate. Et vous le savez, moi je suis un homme très libre, très indépendant d'esprit, et j'essaye modestement de définir un certain nombre de principes. Et à partir de ces principes-là, on peut prendre des bonnes décisions ou les moins mauvaises, si j'ose dire. D'abord, je suis attaché à un principe qui est la légalité républicaine. Majorité-opposition pour ou contre la réforme, il est important de respecter la légalité républicaine. Moi, je considère que le 49-3 n'est pas le meilleur des processus. Je considère d'ailleurs que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, il est dans la Constitution, donc il est légal. La question, c'était de savoir s'il fallait ou pas l'utiliser. Il y a eu un premier problème, c'est que les LR, M. Ciotti, M. Marleix, avaient dit à la Première ministre, Mme Borne, qu'ils voteraient cette réforme. Puis finalement, l'engagement n'a pas été tenu puisqu'ils n'ont pas tenu leur parti et leur groupe. Et la Première ministre a fait au dernier moment le choix du 49-3. Il y a donc derrière une motion de censure, c'est de la légalité républicaine, qui a été déposée par M. de Courson avec un certain nombre de collègues, notamment de la NUP, qui a été votée par le RN, la NUP, un certain nombre de républicains et un certain nombre de non-inscrits et de liottes. C'est la légalité républicaine, c'est pas passé à quelques voix. Aujourd'hui, où en est-on? On est dans une situation compliquée de blocage. Moi, j'appelle au dialogue. Je crois au dialogue. Je suis très attaché à la philosophie de Pierre Mendès-France qui disait « La démocratie, c'est d'abord un état d'esprit, et le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. » On ne peut pas continuer dans les mois qui viennent de la même façon que ces dernières semaines. C'est-à-dire absence de dialogue entre le gouvernement et les syndicats, absence de dialogue entre la majorité et l'opposition, absence de dialogue entre les Français et les tensions de plus en plus importantes. Le dialogue, je pense, il est important, le dialogue politique, le respect des opinions, la pluralité de ces opinions, c'est au gouvernement de le faire avec l'ensemble de la représentation nationale, c'est au gouvernement de le faire avec les syndicats, et c'est ainsi qu'on va pouvoir apaiser, car si réforme des retraites il y a, je pense que nous devons avancer sur la question du travail, la question des conditions de travail, de la réorganisation du travail. Le travail est en pleine mutation et on doit accompagner ces mutations. Et on doit le faire dans un esprit de dialogue. Personne ne peut avoir raison seul contre les autres. Et donc je pense que c'est par cet engagement, par cette volonté de dialogue, cette capacité à écouter des points de vue contradictoires et à se respecter, qu'on pourra sortir de la situation de blocage. Et donc, il faut que le gouvernement assume ses responsabilités en termes de dialogue. Et il faut que celles et ceux qui s'opposent à la réforme puissent être entendus sur un certain nombre de points. Mais il faut aussi clairement dire que celles et ceux qui essayent de jouer les agitateurs ou monter les Français les uns contre les autres, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, bien cela, il faut faire attention à ce qu'ils ne sortent pas du jeu républicain. Et donc, c'est le dialogue qui permet d'éviter cela. Or, si on ne réinstaure pas rapidement le dialogue, on risque de se retrouver dans des situations de confrontation avec des risques de fractures profondes. Et ça, je ne le souhaite pas pour mon pays. Donc, moi, j'appelle chacun au sens de l'intérêt général et au dialogue dans le respect de nos institutions.
Est-ce qu'il faudrait que le président de la République annonce rapidement un cap un peu plus clair? Vous avez parlé du travail. Et est-ce qu'il faut qu'il fasse des propositions sur les conditions de travail, sur la semaine de 4 jours, le télétravail par exemple?
Moi, je crois qu'on peut avancer sur la question du travail en général. C'est une vraie question et une vraie réflexion de fond à mener, évidemment avec les Français, nos concitoyens, qui ne vivent pas le travail de la même façon. Il y a la question de la pénibilité d'un certain nombre de tâches. Il y a la question de la réorganisation du travail. On ne veut plus travailler de la même façon. Il y a la formation professionnelle sur les métiers de demain et d'après-demain dans un monde qui change très vite. Eh bien, je pense que, évidemment, les Français, en première ligne, leurs représentants syndicaux, le gouvernement, la majorité, les élus de la majorité, de l'opposition, doivent pouvoir participer à un dialogue et avancer sur des propositions qui permettront de mieux considérer le travail, de mieux rémunérer le travail. Des choses ont été faites, c'est important, il faut le dire aussi. Mais dans une situation de crise profonde, notamment avec la crise énergétique, avec l'inflation, il y a des réponses aussi à amener. Et puis, il y a aussi des attentes, notamment dans les nouvelles générations, de la manière d'organiser son travail. Vous avez parlé de la question du télétravail. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Mais celles et ceux qui peuvent en faire, comment on l'organise? Comment on fait évoluer les conditions de travail par rapport à ces nouvelles attentes et à cette nouvelle façon de travailler demain et après-demain? Car on ne va plus travailler demain comme on travaille aujourd'hui, comme on travaillait hier. Et donc ça, il faut le mettre sur la table. Ce sont des sujets importants d'intérêt général qui nécessitent de se parler. Et on doit éviter les jusqu'au boutisme et sortir de cette période de tension. Sur la question de fond de la retraite, bien sûr qu'il faut une réforme de la retraite. Les Français sont prêts à des réformes, mais il faut qu'ils aient le sentiment que les réformes qui sont portées sont des réformes où les efforts sont justement répartis. Et donc doit se poser, par exemple, aujourd'hui, la question de celles et ceux qui travaillent et qui ne se sentent pas suffisamment rémunérés ou récompensés dans leurs efforts, ça c'est un point important, et il y a la question aussi de celles et ceux qui gagnent beaucoup sans forcément beaucoup travailler, c'est la question de la répartition d'un certain nombre de richesses et notamment de la participation de ceux qui gagnent de l'argent grâce au capital et qui doivent aussi participer à l'effort collectif dans les réformes. Voilà, par exemple, des principes qu'on pourrait mettre sur une table et qui permettraient de faire que ce pays avance, continue de se réformer, continue de soutenir celles et ceux qui travaillent, tout en ayant une répartition juste des efforts. Et je crois qu'ainsi, on pourrait sortir par le haut. Je le souhaite et je l'espère de tout cœur.
Pierre-Yves Bournazel, justement, Emmanuel Macron souhaite que les grandes entreprises qui font de super profits redistribuent une part de leurs bénéfices aux salariés. Il souhaite aussi un débat sur l'usure professionnelle et les fins de carrière pour les métiers pénibles. C'est une main tendue aux partenaires sociaux?
Il faut le faire. Il faut avancer très concrètement et il faut des actes très prochainement posés dans le cadre de ce dialogue que j'appelle de mes voeux. Je pense que c'est important car je souhaite que mon pays avance. Je souhaite que les Français avancent ensemble, quelles que soient leurs conditions sociales, leur âge, qu'on avance ensemble. Il n'y aurait rien de pire que le blocage et donc l'immobilisme. Dans un monde incertain, dans un monde de crise, dans un monde dangereux, on le voit avec la guerre sur le sol européen en Ukraine, on le voit avec les tensions entre la Chine et les États-Unis, la nécessité pour la France et l'Europe de défendre la souveraineté industrielle, notre indépendance énergétique, on voit qu'il y a des sujets majeurs et il faut que la France soit en mouvement, que nous avancions. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans l'intérêt général, il faut trouver toutes les solutions pour débloquer des situations. Nous sommes dans une situation de blocage. Si le blocage continue, on va arriver à des situations de tension extrême et donc de risque de bascule ou de dérive. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Donc il faut reprendre le chemin du dialogue. Il faut continuer à avancer sur un certain nombre de réformes, dont la réforme des retraites, avec de l'équilibre et avec la nécessité de réformer aussi le travail de manière générale, grâce à un dialogue avec tous les représentants des syndicats, mais avec celles et ceux, des citoyens qui ont des idées, qui veulent contribuer à dire les changements qu'ils attendent sur les conditions de travail, sur la réorganisation du travail, sur la manière d'appréhender le travail et mieux récompenser le travail, mieux récompenser les efforts, faire en sorte que lorsque l'on travaille et qu'on fait des efforts, eh bien, on soit gagnant dans l'entreprise en termes de salaire, mais en termes d'aide et de soutien exceptionnel aussi. Et puis, quand une entreprise marche bien, il faut qu'elle puisse contribuer à l'effort collectif et notamment celles et ceux qui possèdent le capital, dans une logique d'équilibre, évidemment. Il ne s'agit pas de reprendre des mesures fantasmées où, d'un coup, du jour au lendemain, on expliquerait que on va demander aux entreprises de donner tout leur capital. Non, de participer, de contribuer. Je crois que c'est ça, c'est l'équité. Chacun peut faire des efforts à condition que l'autre fasse la part de son effort aussi.
Pierre-Yves Bournazel, le président Macron a répété le credo d'Édouard Philippe, nous n'avons pas le droit à l'immobilisme. Alors samedi a lieu le congrès d'Horizon, le parti dont vous êtes l'un des dirigeants. Ce sera un congrès où les idées seront sur la table pour l'après Emmanuel Macron.
Nous avons construit Horizon autour d'Édouard Philippe parce que nous voulons penser l'avenir de la nation. Une nation ouverte sur l'Europe et sur le monde. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, nous avons monté des groupes de travail dans un pôle idées avec 150 experts, des élus, des citoyens de sensibilités différentes qui sont ensemble et qui dessinent une vision, une stratégie pour la France. C'est quoi la France dans 10 ans ou dans 20 ans? Quels sont les enjeux géopolitiques? Quels sont les enjeux économiques, sociaux, sociétaux? Qu'est-ce qu'on fait sur la transformation écologique? Qu'est-ce qu'on fait sur la question énergétique? Qu'est-ce qu'on fait sur la question majeure de l'éducation, de la formation professionnelle? Quels sont les principes républicains et démocratiques qu'il faut défendre face à la montée des populismes, des extrémismes? Sur tous ces sujets, nous travaillons pour établir cette stratégie et définir la France dans laquelle nous voulons vivre dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est un gros travail et Édouard Philippe, c'est un homme d'État. Il a une vision, il a une stratégie, il sait travailler avec les autres et c'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'il faut du temps pour le faire. Et nous utilisons ce temps aujourd'hui pour essayer de construire. Et Édouard Philippe est beaucoup à la rencontre des Français, sans caméra, sans micro. Il était il n'y a pas très longtemps dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans le Rhône, dans la Vienne. Prendre le temps aussi d'écouter, d'apprendre et de comprendre ce qui marche, parce qu'il y a des choses qui marchent dans notre société, pour valoriser ce qui fonctionne. Et puis regarder ce qui ne marche pas, regarder quels sont les freins, les verrous, les erreurs, les mauvais textes, pour essayer d'apporter des solutions concrètes, opérationnelles, pour débloquer des situations. Et donc c'est un parti autour d'Édouard Philippe qui est au travail. Et puis c'est un parti aussi qui est ancré dans les territoires, c'est important. Édouard Philippe croit beaucoup à la proximité, au caractère opérationnel. C'est pour ça que nous avons plus de 450 maires, beaucoup d'élus locaux, et beaucoup d'adhérentes et d'adhérents qui nous rejoignent et qui prennent des responsabilités dans leur commune. Nous avons décidé d'avoir comme cellule de base dans le parti, la commune, au plus près du terrain. Et ainsi, on peut agréger des citoyens de sensibilités différentes, mais qui se reconnaissent dans la personnalité d'Édouard Philippe, dans son caractère, dans son tempérament, mais dans sa vision de l'avenir, en dépassant des clivages stériles, avec la volonté vraiment de servir notre pays et de construire vraiment cette stratégie pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Donc on le fait avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. On a dépassé les 20 000 adhérents, il y a du monde. Édouard Philippe attire beaucoup aussi de sympathisants. Il est une boussole pour l'avenir de notre pays face à des radicalités parfois extrêmes qui sont en train de progresser. Eh bien, il peut être un point de convergence pour toutes celles et tous ceux qui, de la social-démocratie aux écologistes responsables, en passant par la droite gaulliste et toutes les forces centrales, peuvent se retrouver pour se rassembler pour une certaine idée aussi de l'avenir du pays et d'une nation ouverte qui est capable de trouver un chemin d'espoir et pas être dans des solutions simplistes, radicales, qui nous amèneraient dans l'abîme, que ce soit dans le nationalisme le plus étriqué ou dans des postures pseudo-révolutionnaires qui ont toujours malheureusement conduit notre pays et les nations européennes à l'échec et voire dans les pires régimes politiques.
Pierre-Yves Bournazel, un mot sur la grève des éboueurs à Paris. Malgré les réquisitions, encore 9500 tonnes de déchets n'ont pas été collectées, des ordures brûlées tous les soirs par des manifestants. Que proposez-vous pour que les rues redeviennent propres?
Je suis très respectueux du droit de grève. C'est un principe à valeur constitutionnelle et je respecte profondément les éboueurs. Je les connais, je suis un élu de Paris depuis 15 ans. Je respecte leur travail et la difficulté de leur travail. Je m'adresse, moi, à la ville de Paris, à la mairie de Paris, parce que lorsqu'on a des responsabilités, il faut les assumer. C'est une question d'hygiène, une question de salubrité et de sécurité. Et donc, j'ai appelé depuis plus de 10 jours la ville à agir. Malheureusement, il a fallu que ce soit la préfecture de police qui entende mes propositions, notamment sur le service minimum, en utilisant les agents non grévistes ou en faisant appel à des entreprises privées de manière temporaire. Mais ça ne va pas assez loin. Il faut aller plus vite et plus fort parce que c'est un sujet d'intérêt général. Les problèmes d'hygiène peuvent amener des problèmes de santé à terme. Les problèmes de sécurité, on le voit aujourd'hui malheureusement avec les manifestations qui ont lieu à Paris tous les jours et tous les soirs, il y a des poubelles qui sont brûlées. Mais bon, au-delà du problème écologique et d'hygiène, ça peut être un problème de sécurité pour les passants, pour les riverains, pour les immeubles. Les gens qui vivent en rez-de-chaussée, vous croyez que c'est agréable d'avoir 2 mètres de poubelle devant chez soi ? Donc cette mission de service public, elle doit être remplie. Et moi, je me bats pour les Parisiennes et les Parisiens, pour une certaine idée de Paris, et pour qu'on soit là aussi dans le juste équilibre et qu'on assure ce travail-là et que ce travail-là puisse être fait et que les Parisiennes et les Parisiens, qu'ils soient pour ou contre la réforme, puissent avoir un service minimum quand même et droit quand même à l'hygiène et à la sécurité. C'est bien ce qu'on leur doit.
Dernière question très rapidement, Pierre-Yves Bournazel. Il y a un accident chaque heure selon Le Parisien à Paris. La capitale est devenue dangereuse pour les piétons qui doivent faire face aux trottinettes et aux vélos. Comment rendre la vie des piétons plus simple à Paris ?
Ah, ben vous avez parfaitement raison. Et comme Parisien et comme habitant du 18e, je le vois bien. Et comme piéton, on est vulnérable. Et depuis des années, je demande qu'il y ait une protection du piéton, une charte du piéton. Ça me paraît important, on a un espace public encombré qui est souvent mal géré, une désorganisation de la gestion des travaux, sans parler des problèmes de saleté des rues, des traverses qui ne sont pas toujours sécurisées. Donc on a besoin de protéger le piéton, c'est peut-être une priorité. Pour moi, la ville doit rimer avec liberté, la liberté de se déplacer. Pour le piéton, mais c'est vrai pour le vélo, pour la trottinette, pour ceux qui sont en voiture, en deux roues, et puis en transport en commun. Or aujourd'hui, on voit des transports en commun qui marchent de moins en moins bien, des métros qui sont de plus en plus en retard, je le vois comme usager de la ligne 12 ou de la ligne 4, des bus qui sont très agréables, mais parfois il faut les attendre 30 minutes, donc il ne faut pas être pressé. Il faut réorganiser la gestion de l'espace public. Je vois les trottinettes. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction des trottinettes. Le problème, ce n'est pas les trottinettes, c'est les personnes inciviques sur les trottinettes. Donc moi, j'ai demandé, par exemple, qu'il y ait un grand plan d'éducation au savoir rouler, dans les écoles et par les associations. J'ai demandé qu'il y ait des sanctions des incivilités. Il y a une police municipale, il faut qu'elle verbalise les personnes inciviques. Et je demande aux opérateurs de mettre en place les nouvelles technologies qui existent pour interdire 2 personnes d'être sur la même trottinette. Elles pourraient être ainsi bloquées pour imposer une seule personne sur une trottinette. Il existe des solutions efficaces, opérationnelles. Faut-il encore avoir envie de les mettre en œuvre ? Quand on aime sa ville, on s'en occupe. Il faut prendre soin de Paris et réorganiser notre espace public, l'apaiser et faire en sorte que, évidemment, le piéton soit le premier protégé parce qu'encore une fois, il est le plus vulnérable. Et donc, ces propositions, je les mets sur la table depuis longtemps. Je les ai réitérées encore cette semaine. Je ne désespère pas, comme élu d'une opposition constructive, être entendu, mais il est urgent d'agir pour Paris.
Merci Pierre-Yves Bournazel. Je rappelle que vous êtes coprésident du groupe Indépendants et Progressistes au Conseil de Paris, ancien député, secrétaire général délégué d'Horizon. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.